Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, le gouvernement tchèque s'accorde sur une taxe sur les bénéfices exceptionnels. Taux de chômage tchèque toujours le plus bas de l'Union européenne selon Eurostat. Et puis la compagnie aérienne israélienne Israel propose de racheter Smartwings. Le gouvernement tchèque est tombé d'accord sur la forme d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels dans les secteurs de l'énergie et de la banque, a déclaré vendredi le ministre des Finances Zbigniew Stanjura à l'issue d'une réunion des représentants des cinq partis au pouvoir. Les recettes visent à générer environ 85 milliards de couronnes pour l'année prochaine. La taxe doit s'élever à 60% sur les bénéfices excédentaires pour les années 2023 et 2025. L'impôt devrait être payé par les entreprises du secteur de l'énergie, du pétrole et des mines, ainsi que par les banques. La nouvelle taxe fera partie d'un nouveau paquet fiscal actuellement débattu à la Chambre basse. La Tchéquie affiche toujours le taux de chômage le plus bas de toute l'Union européenne selon l'agence européenne de statistiques Eurostat. Selon Eurostat, le taux de chômage en Tchéquie est tombé à 2,2% en septembre contre 2,4% en août. Dans la zone euro, le taux de chômage a diminué d'un dixième de point de pourcentage pour atteindre 6,6%. Depuis plusieurs années, la Tchéquie affiche l'un des taux de chômage les plus bas de l'Union européenne. La compagnie aérienne israélienne Israel a offert 44 millions d'euros pour acheter la compagnie aérienne tchèque Smartwings, selon certains sites web spécialisés qui se réfèrent aux informations obligatoires de la bourse de Tel Aviv. Smartwings assure également des vols pour d'autres compagnies aériennes et a un accord de partage de code avec Israel. Czech Airlines fait également partie du groupe Smartwings. En raison de dettes élevées, la compagnie Czech Airlines a fait faillite et le tribunal a ensuite autorisé sa réorganisation qui s'est achevée cet été. Le nouvel investisseur est Prague Citier, une société détenue par les propriétaires de Smartwings Group. La mairie de Prague, en coopération avec l'UNICEF, va ouvrir un nouveau centre d'aide aux réfugiés d'Ukraine. Le centre, qui devrait ouvrir ses portes d'ici la fin de l'année, se concentrera sur les réfugiés qui se trouvent déjà dans la capitale tchèque depuis un certain temps, mais qui ont eu des difficultés à trouver un logement. Le nouveau centre sera installé dans le même bâtiment que l'actuel centre d'assistance régionale pour l'aide à l'Ukraine, qui s'occupe des réfugiés entrants et travaillera en parallèle avec cette institution. Ouverture ce vendredi d'une exposition dans le nouveau bâtiment du Musée national de Prague intitulé Musée dévoyé qui montrera les différentes manières dont s'est diffusée la propagande communiste. Les visiteurs pourront y voir des objets d'époque issus des collections des musées communistes créés dans les années 50 dans l'ancienne Tchécoslovaquie et les anciens satellites soviétiques. L'objectif principal de l'exposition est de souligner l'idée que les objets ne sont pas responsables de leur dévoiement. Il y a toujours une intervention humaine et une interprétation d'époque, souligne Michal Lukács, directeur général du Musée national. On termine par un mot de météo. Samedi, jour de fête des Myriam, temps mitigé en République tchèque avec 10 degrés pour les moyennes maximales. Un soleil franc devrait refaire son apparition dimanche. C'est la fin de ce bulletin d'information. Restez avec nous, tout de suite la suite du programme sur Radio Prague International.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International. En cette fin de semaine, nous parlerons d'abord de l'initiative ou des initiatives choc et controversées de différents ministres tchèques dans leur soutien à l'Ukraine. Nous évoquerons aussi le nom Tchéchia que les sportifs tchèques porteront peut-être prochainement sur leur maillot lors des compétitions. Nous passerons également en revue les médias tchèques de cette semaine avant de finir sur une note de musique avec un concert exceptionnel qui s'est tenu à Prague jeudi soir. Très bonne écoute. Une ministre de la Défense qui s'affiche sur les réseaux sociaux habillée d'un t-shirt avec l'inscription « Fuck you, Poutine » et un ministre de l'Intérieur qui, sur la façade du ministère, fait installer une immense toile sur laquelle Vladimir Poutine est représenté comme un cadavre. Depuis le début de la guerre, le gouvernement tchèque n'a eu de cesse d'exprimer son rejet de l'agression russe en Ukraine, mais même à Prague, certaines voix se demandent si certains ministres ne poussent pas le bouchon un peu trop loin.
Stojím tady nad Letenskou plání, den před naším největším státním svátkem,
Tandis que les médias russes ont critiqué l'installation sur le bâtiment du ministère tchèque de l'Intérieur avec un Vladimir Poutine placé entre les drapeaux tchèques et ukrainiens et dont seule la tête dépasse d'un sac mortuaire, les médias ukrainiens, eux, ont rappelé que ce n'était pas la première fois que des dirigeants tchèques critiquaient sévèrement le président russe. En République tchèque aussi, l'initiative du ministre de l'Intérieur a été diversement appréciée, contraignant ainsi vite Rakušan à défendre sa vision des choses, mais à l'entendre, le ministre s'était préparé à ce que l'initiative suscite des réactions très diverses. Ce n'était pas mon idée, nous avons coopéré avec l'organisation Dekommunizace et des employés du ministère en charge de la communication stratégique ont également participé au projet. Même si l'initiative a suscité de l'enthousiasme en Ukraine, c'est d'abord le public tchèque que nous voulions cibler. Depuis le début de ma carrière, je m'efforce de rassembler les gens plutôt que de creuser des fossés. Mais là, je le reconnais, ma volonté était de provoquer, de montrer du doigt la cinquième colonne, l'ennemi et le mal, de dire que Poutine incarne le mal. Nous n'avons pas peur de caricaturer Hitler, nous n'avons pas eu peur de caricaturer par exemple Saddam Hussein. Donc pourquoi faudrait-il avoir peur de caricaturer Poutine ? Et si cette initiative a soulevé la question de savoir si on peut se permettre de caricaturer le mal que représente l'agression russe en Ukraine, et j'ai vu ce mal sur place, alors j'estime que le débat est légitime et je suis satisfait que l'on discute. La toile en question a été installée vendredi dernier, 28 octobre, jour de fête nationale en République tchèque et du 104e anniversaire de la fondation de l'État tchécoslovaque libre et indépendant. Dans la matinée, sur son compte Twitter, Vite Rakušan, par ailleurs leader du parti Maire et Indépendant, une formation libérale de centre droit, a publié une photo de la toile accompagnée de ce commentaire. Nous savons qui est notre ami qui saigne pour la liberté et nous savons aussi qui est notre ennemi et nous ne le laisserons pas voler la notion du patriotisme, pas même à notre République tchèque. Fin de citation. Lundi dernier, soit trois jours après l'apparition de la toile sur la façade du ministère, Vite Rakušan faisait partie de la délégation ministérielle tchèque qui s'est rendue à Kiev pour participer à une réunion essentiellement d'ordre symbolique avec le gouvernement ukrainien. Alors que la République tchèque assure la présidence tournante de l'Union européenne, ce voyage a été un autre moyen pour Prague d'exprimer sa solidarité avec l'Ukraine. Dans cette délégation figurait également la ministre de la Défense, Yana Tchernokhova. Yana Tchernokhova, membre du parti conservateur ODS que dirige le Premier ministre Petr Fiala. Le 7 octobre, soit le jour des 70 ans de Vladimir Poutine, Yana Tchernokhova avait elle aussi publié sur son compte Twitter un selfie sur lequel elle apparaissait avec un t-shirt barré des inscriptions en bleu et en jaune « Fuck you Poutine, gloire au héros » et du motif d'un doigt d'honneur en forme de squelette. Comme d'autres personnalités engagées publiquement, la ministre, qui elle non plus ne manque jamais une occasion d'exprimer son soutien à l'Ukraine et sa haine du régime de Poutine, avait reçu ce maillot des organisateurs de l'initiative « Un cadeau pour Poutine », nom de la grande campagne de financement participatif largement médiatisée qui a permis l'achat et l'envoi récemment en Ukraine d'un char d'assaut. Toutefois, comme l'a aussi souligné un commentateur du site d'information echo24.cz, en forme de rappel au gouvernement, je cite « Nous ne voulons pas la mort d'un tyran, nous ne voulons pas la mort de Poutine, c'est devant la justice que nous voulons le traduire pour un procès équitable ». La Tchéquie, ou si vous préférez encore la République tchèque, apparaîtra désormais sur la scène sportive sous le nom d'un seul mot, Tchéchia. Le comité olympique tchèque va en effet demander au comité international olympique d'inscrire le nouveau nom dans la base de données internationale des sports où Tchéchia remplacera le nom Tchèque République, en anglais République tchèque, utilisé jusqu'à présent. Plus de détails avec Alexis Rosenzweig.
Cette étape importante a été validée cette semaine par le comité exécutif du comité olympique tchèque. Lors de la conférence d'avril, les responsables de diverses fédérations sportives avaient soutenu la transition progressive vers un nom unique et unifié. Par exemple, le basket, le hockey et le football nationaux utilisent déjà ce nom de Tchéquia. Nous suivons la procédure du ministère des Affaires étrangères, qui a fait déjà ce changement à l'ONU ou à l'OTAN. Naturellement, ce nom a été adopté au niveau international par un certain nombre d'autres organisations et c'est une suite logique dans le sport. Dans notre cas, la grande majorité des sports olympiques se sont prononcés en faveur de ce changement. C'est ce qu'a indiqué Roman Kumpošt, vice-président du comité olympique tchèque pour les relations internationales. Le nom Tchéquia s'impose également dans la diplomatie non sportive, vous le savez, c'est ce que nous rappelait encore récemment sur notre antenne le diplomate Jaroslav Kurfürst, ministre adjoint des Affaires étrangères.
Je pense que petit à petit on va être là, je pense que c'est important, c'est de nation branding, c'est vraiment une des choses principales que le pays a le nom, la clarté.
Comment
comment utiliser le nom et je pense que l'avis comment utiliser ça, je peux dire si vous utilisez la France, la Slovaquie, etc., c'est la même chose, ou on peut utiliser la Tchéquie. Si vous utilisez la République française, le Royaume de Belgique, c'est le moment où il faut utiliser la République tchèque. Dans les documents qui ont la valeur de droit, on utilise le nom constitutionnel. Dans la langue parlée, sur la conférence, dans les occasions qui sont moins formelles, on utilise la Tchéquie. Si je vois la foule aux Jeux olympiques, la France, la Belgique, Slovaquie, Hongrie, etc., etc., Tchéquie. Ça, c'est quelque chose que je voudrais voir sur les épaules des représentants tchèques.
Selon les autorités sportives tchèques, changer le nom dans la base de données internationale utilisée pour les résultats sportifs ne devrait pas prendre longtemps. Sous le nom de Česko ou son équivalent anglais Tchéquia, Tchéquie en français, l'équipe tchèque pourrait déjà se présenter aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Mais pour les fédérations sportives, le changement de nom entraîne également des coûts pour le nouvel équipement des équipes nationales dans toutes les catégories d'âge. En avril, le président de l'Agence nationale des sports, Philippe Neusser, s'attendait à une période de transition de 2 ans. Dans l'ensemble du paysage sportif, selon sa déclaration de l'époque, le nom en un mot, Tchéquia, des équipes nationales pourrait commencer à fonctionner dans le cycle olympique entre Paris 2024 et Los Angeles 2028.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague International. Merci de rester encore quelques instants en notre compagnie. On retrouve maintenant, comme chaque vendredi, la revue de la presse tchèque. Une nouvelle revue de presse qui s'intéressera d'abord au silence qui entoure les Tchèques qui ont fui leur pays pour s'installer en Europe. Autre sujet qui ont résonné dans les médias tchèques cette semaine, l'entrée dans la danse d'Andrej Babiš comme candidat à l'élection présidentielle, les mauvaises conditions du château de Prague, les positions différentes des Tchèques et des Slovaques vis-à-vis de l'Ukraine ou encore la visite d'une délégation ministérielle tchèque en Ukraine. La revue de presse a été préparée par Alena Gebertova qui la présente en compagnie d'Alexis Rosenzweig.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Selon les données de l'agence Frontex, près d'un million de personnes munies d'un passeport russe sont entrées dans l'Union européenne depuis le début de la guerre en Ukraine. Et on estime de 400 à 900 000 le nombre de ceux qui ont fui la Russie depuis le lancement de la mobilisation partielle. Pourquoi les Russes, qui sont partis à l'étranger pour fuir Poutine et son régime, se taisent-ils ? Se demande toutefois Rospodarské noviny. Le quotidien économique répond avec un exemple pertinent.
Pendant la guerre en Ukraine, des dizaines de milliers de Russes sont partis également en Tchéquie. Un mois après le début de l'invasion de l'Ukraine, environ 300 d'entre eux se sont rassemblés sur la place Venceslas à Prague pour protester, de concert avec des Tchèques et des Ukrainiens, contre la guerre. Ils n'y sont revenus que 6 mois plus tard, au début de la mobilisation en Russie fin septembre, encore moins nombreux, et c'est tout.
Ce silence, comme le souligne le journal, ne passe inaperçu nulle part en Europe. On peut très bien comprendre que les Russes ne protestent pas dans leur pays, soumis à un régime policier dur. Mais, comme on l'expliquait en Occident, où ils sont actuellement des centaines de milliers, insiste-t-il encore avant de conclure.
Pour être admis par le monde démocratique, les Russes n'ont qu'une seule possibilité, faire savoir clairement et à haute voix qu'ils rejettent Poutine et tout ce qu'il représente. Agir en silence n'est pas ce qu'il faut pour le convaincre.
Un acteur très fort entre dans la danse, bien que les sondages ne le favorisent pas. C'est ainsi que Respect a commenté la décision d'Andrei Babich, ex-premier ministre et actuel chef du mouvement populiste Anon, de se présenter à l'élection présidentielle. L'hebdomadaire libéral écrit aussi.
Babich a conscience d'être apprécié de ses électeurs. Ceux-ci sympathisent avec lui sans se préoccuper de ses démarches, de ses scandales et de son passé. Il est donc probable que même un éventuel échec lors de l'élection présidentielle n'entamera pas sa notoriété. Andrei Babich pourra également profiter du mécontentement d'une partie de la population et compter sur une excellente équipe marketing. Sa candidature lui permettra de devenir le leader de l'opposition face au gouvernement et aux tendances libérales au sein de la société.
Denik N estime pour sa part que la candidature d'Andrei Babich est la promesse d'un hiver long mais captivant et d'une campagne durant laquelle les candidats devront jouer des coudes. Compte tenu des estimations, il peut paraître comme un outsider, mais cela ne signifie pas qu'il sera facile pour ses adversaires de le battre, écrit le quotidien indépendant. Hospodarské noviny note encore à ce propos.
Durant les 2 prochains mois, nous allons tout à la fois assister à et participer à un combat pour le caractère de la Tchéquie. L'enjeu sera de savoir si elle est un pays de calcul marketing incarné par Babich ou, au contraire, un pays prêt à répondre aux défis. Ces positions sont représentées par Peter Pavel et Danuše Nerudová, ses 2 principaux adversaires.
Le journal en ligne Denik Referendum est plus catégorique.
Babich représente une menace directe pour la démocratie. Oligarque, il concentre les pouvoirs médiatiques, économiques et politiques. Pour lui, l'État est d'abord un instrument qui sert ses affaires. Lors de l'élection présidentielle, il ne s'agira ni plus ni moins d'une confrontation entre 2 tendances qui définissent la politique tchèque, démocratique et autoritaire.
Le château de Prague, siège de la chancellerie présidentielle, se délabre, titrait Lidové Noviny en début de semaine. L'auteur de l'article, une historienne d'art reconnue, précise sa pensée.
Supprimer les mesures de sécurité mégalomaniaques, ouvrir le château au public, renouveler son programme culturel, telles sont les démarches à entreprendre dès l'investiture du prochain président de la République. Une tâche difficile car depuis plusieurs années, le château de Prague est encerclé de barrages, occupé par des soldats et des agents de police, la sécurité y est omniprésente. On a du mal à comprendre les raisons du maintien de ces mesures qui ont coûté énormément d'argent et nécessité d'importants moyens humains. La question mérite d'être posée. Le président tchèque est-il une figure si importante et menacée de l'extérieur qu'il doit être protégé plus encore que les chefs d'État sous le régime communiste ?
Le journal rappelle que sous Václav Havel et Václav Klaus, les prédécesseurs du président Miloš Zeman, dont le 2e quinquennat s'achèvera en mars prochain, des modifications avaient été entreprises au château de Prague pour rendre accessibles différents sites et lieux qui ne l'étaient pas auparavant. Cette activité, qui s'accompagnait d'un riche programme culturel, a été abandonnée par la suite. Accorder à ce monument précieux les soins lui permettant de retrouver son illustre perdu apparaît comme un des grands défis qu'aura à relever la prochaine chancellerie présidentielle, conclut Lido Vanhoven. Concernant l'Ukraine, la Tchéquie et la Slovaquie sont deux univers différents. Tel est le titre percutant d'un article publié dans Denik N, dans lequel son auteur analyse les résultats d'un récent sondage de l'agence Ipsos relatif aux positions des citoyens des deux pays voisins sur la guerre en Ukraine. On peut lire.
Dans les deux pays, une partie de la population fait confiance au président russe, est opposée à l'aide accordée à l'Ukraine et dénonce l'aspiration de celle-ci à intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Cela dit, les Tchèques défendent la cause ukrainienne de manière beaucoup plus prononcée. Pour les Slovaques, la Russie représente la plus grande menace, c'est vrai, mais seulement la moitié de la population la considère comme telle, alors que ce chiffre tourne autour de 70% en Tchéquie. Aux yeux des Slovaques également, les États-Unis, pays allié de l'OTAN, sont considérés comme la deuxième plus grande menace. Les Tchèques, quant à eux, sont beaucoup plus vigilants à l'égard de la Chine. De même, ils sont plus critiques envers le président russe et plus enclins à soutenir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Selon les auteurs du sondage cité dans l'article, les différences entre les deux pays ne sont pas tellement étonnantes, les Slovaques semblant être plus fortement influencés par les fausses informations que les Tchèques. Le texte termine néanmoins sur une conclusion positive et immuable. Tchèques et Slovaques continuent de se considérer comme les alliés les plus proches. Peter Fiala se conduit comme un leader authentique, un avis exprimé sur actualnia.cz suite au Conseil des ministres des gouvernements tchèques et ukrainiens qui s'est tenu à Kiev lundi dernier. C'est son deuxième geste extraordinairement fort et audacieux, rappelle le site.
En mars dernier, Peter Fiala s'était déjà déplacé pour une première fois dans la capitale ukrainienne, alors accompagné de ses homologues polonais et slovènes. Cette fois, il s'y est rendu en tant que Premier ministre du pays qui préside l'Union européenne. D'un point de vue international, c'est une démarche intelligente et perspicace. Elle témoigne du fait que la Tchéquie n'est pas qu'un petit pays, mais qu'elle dispose de suffisamment de force et de qualité morale pour définir l'orientation européenne.
Ce voyage à Kiev, comme le constate encore actualnia.cz, est pourtant en contradiction avec l'admiration d'une partie du gouvernement, et en particulier du parti conservateur ODS, pour le leader hongrois Viktor Orban, cheval de Troie de Poutine au sein de l'Union européenne. Sa conclusion est formelle. Le groupe de Visegrad n'a plus aucun sens.
Icône du printemps de Prague en 1968 et de la révolution de velours en 1989, figure parmi les plus charismatiques de la chanson tchèque, Marta Kubišová a fêté ses 80 ans mardi 1er novembre. Afin de rendre hommage à cette femme exceptionnelle dont le nom restera à jamais gravé dans le cœur des Tchèques et des Slovaques, notamment pour son interprétation de la chanson Modlitba pro Martu, en français Prière pour Marta, la radio tchèque a organisé et diffusé en direct un grand concert appelé Concert pour Martin, concert qui s'est tenu jeudi soir dans la salle du palais Lucerna, au lieu de l'histoire musicale pragoise. Plusieurs artistes tchèques de premier plan étaient réunis à l'occasion de cette soirée, forte en émotion. Nous vous proposons maintenant de vous plonger dans l'ambiance de cette soirée en écoutant la reprise par Marta Kubišová en personne de son emblématique chanson Modlitba pro Martu, Prière pour Marta. Très bonne écoute.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár ty už pominou. Ať už pominou.
teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Z odlohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedmu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá k srdci, která zlobí čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír tam zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svá. Tvá ztracená vláda věcí tvých svět se k tobě navrátí. Lidé navrátí.
Voilà, c'est donc sur ces applaudissements pour la chanteuse Marta Kubišová et son emblématique chanson Modlitba pro Martu que s'achève pour ce vendredi le programme préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt, si possible dès ce week-end, de nouveau à l'écoute des programmes de Radio Prague International. Ahoy, à bientôt.